L'actualité avec un risque d'avalanche fort aujourd'hui dans les Alpes du Sud.
Risque 4 sur 5 pour tous les massifs, pour toute la journée, indique Météo France. Une exception néanmoins pour le dévolu, en risque 3 sur 5.
Et c'est donc Cyril Linette qui a été nommé directeur général du comité d'organisation des JO 2030.
Après plusieurs jours d'hésitation, l'ancien dirigeant du journal L'Équipe, favori pour occuper ce poste, va bien être le bras droit pendant 5 ans d'Edgar Gropion, président de ce COJOP.
Et Jean-Pierre Farandou, premier PDG de la SNCF, à venir à Briançon.
Sans avoir d'annonce, mais avec une promesse, celle d'un désenclavement ferroviaire assuré pour les Jeux Olympiques 2030. L'objectif est chiffré pour le train de nuit Paris-Briançon, 80% de régularité.
Les Alpes du Sud qui continuent de panser ces plaies des intempéries de 2023.
Le col d'Alos va bien ouvrir cet été, comme promis par la présidente du département bas-alpin, Eliane Bareil. Côté haut-alpin, les travaux pour la route de Risoul débutent le mois prochain.
Et puis le trophée des petits champions, mais c'est ce week-end dans les patinoires des Hautes-Alpes.
Les U9 à Briançon, les U11 à Orcières-Merlette et les U13 à Gap. Un événement qui se veut international avec des équipes suisses, espagnoles, italiennes ou encore tchèques, avec plus de 300 enfants réunis autour d'un palais. Le risque avalanche plus que bien présent aujourd'hui en montagne. Tous les massifs des Alpes du Sud sont en risque fort, soit 4 sur 5. Des départs spontanés sont possibles. Seul le dévolu est en alerte 3 sur 5. Les deux départements, les Hautes-Alpes et les Alpes d'Haute-Provence, sont en vigilance jaune aux avalanches pour la journée, indique Météo France.
Le directeur général du comité d'organisation des JO 2030, nommé officiellement hier.
Celui qui était pressenti, Cyril Linette, va occuper ce poste de bras droit d'Edgar Gropiron, président du comité. Cela fait suite à une dizaine de jours de tergiversations et un conseil d'administration final à Lyon hier. Sa nomination avait d'abord été repoussée lundi 7 avril, puis de nouveau lundi lors de l'inauguration à Marseille de la société de livraison des ouvrages olympiques. Journaliste de formation, Cyril Linette a dirigé plusieurs groupes français comme le journal L'Équipe ou encore le groupe PMU. Cyril Linette, un dirigeant innovant, structurant et réformateur qui apporte une vision claire sur la création de valeur, la gestion budgétaire, la performance des équipes et la diffusion des contenus, commente Edgar Gropiron.
Alors ça, c'était une première qui était très attendue dans les Hautes-Alpes.
Un PDG de la SNCF se rendait pour la première fois à Briançon pour venir. Jean-Pierre Farandou a emprunté le train de nuit mercredi soir et a relié la capitale à la cité Vauban hier matin. Au programme de ses échanges avec les élus, la desserte et les infrastructures ferroviaires pour améliorer le trafic des TER et surtout du train de nuit Paris-Briançon. C'est la ligne la moins ponctuelle de France ces deux dernières années. Le reportage sur place de Cyril Cavamichard.
Et ce que vous pouvez observer, c'est qu'aujourd'hui, tous les acteurs sont autour de la table avec tous le même objectif. Accélérer, accélérer, accélérer.
Vous avez entendu Arnaud Murgia, le maire de Briançon. Accélérer les trains, accélérer les travaux. En bref, accélérer le désenclavement ferroviaire des Hautes-Alpes. Et si l'usager voit souvent rouge, c'est à cause d'un point noir. Le train de nuit Paris-Briançon, l'une des pires lignes de France. En matière de ponctualité, seulement 53% de trains à l'heure l'an dernier.
La bonne nouvelle, c'est que donc l'État, le ministère des Transports, a donc décidé d'acheter du matériel neuf.
Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF.
C'est en JO où là, on l'espère, les travaux de voie seront terminés sur l'ensemble de l'axe, notamment autour de Valence, etc. Tout sera prêt, avec du matériel neuf. Donc là, franchement, on aura tous les outils de travail pour faire un très bon service. Là, l'objectif, on est en ce début d'année à 70% de régularité. Moi, je pense que la barre des 80% est atteignable. Et 80%, vous savez, c'est la régularité moyenne des TGV en France. Donc si on arrive à mettre la ligne Paris-Briançon 800 km quand même, avec plus de 200 km de voie unique, donc c'est pas facile, avec des manœuvres en cours de route, si on arrive à la mettre au niveau de la moyenne des TGV, je pense que c'est un bon objectif. Je pense qu'il est atteignable. On a encore quelques efforts à faire, de la robustesse encore à introduire dans l'exploitation.
80% de régularité pour le train de nuit Paris-Briançon, c'est l'objectif. Et pour la ligne TER Marseille-Briançon, la région, elle, ambitionne une liaison en 3h40. La SNCF attend la finalisation du budget accordé par l'État pour prévoir les travaux. Cela devrait être fait avant l'été.
On a besoin maintenant d'une décision rapide parce que le temps du ferroviaire, c'est du temps long. Le temps d'organiser les travaux, de les réaliser, de faire les études, les autorisations. Bon, je crois qu'on est très près maintenant de la décision à partir de laquelle tout pourra se planifier, tout pourra s'organiser.
Et pour remplir l'objectif d'un Marseille-Briançon en moins de 4 heures, il faudra multiplier les croisements.
L'idéal, si on veut multiplier les croisements, c'est plutôt c'est les télécommander. Là encore, est-ce qu'on aura le temps de tout installer, toutes les télécommandes? C'est la signalisation. Donc là, c'est les études de sécurité Donc c'est plus compliqué quelque part que de changer des rails. Et si on n'a pas pu installer ces télécommandes partout, on passera par des solutions manuelles, en tout cas pour les Jeux Olympiques, pour assurer le débit, parce qu'on a compris que pendant les JO, il y aura plus de trains.
Alors bien évidemment, l'échéance des JO 2030 est en ligne de mire, mais l'important pour Chantal Emeaude, vice-présidente de la région Sud, c'est de penser à l'après.
Je pense qu'il ne faut pas se leurrer, on ne pourra pas tout faire en même temps. Et il est important pour nous, pour le territoire des Alpes, et aux Alpes en particulier, d'arriver à faire en sorte qu'on bloque un maximum de financement pour qu'on ait en héritage cette promesse d'un désenclavement qui soit plus important, d'une mobilité douce qui est aussi au cœur du sujet, au cœur de nos priorités.
La promesse d'un train qui devienne mode de déplacement quotidien, c'était l'ambition inachevée de l'ancien député des Hautes-Alpes et ministre de la Ruralité, Joël Giraud, souvent qualifié de plus grand défenseur du rail. Pour cette promesse, le message est clair, selon lui, on dit merci aux JO.
Les solutions qui ont été évoquées tout à l'heure, dont les télécommandes dans les gares, il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup de lignes à voie unique avec beaucoup d'aiguillages télécommandés qui ont des fréquences de train toutes les 20 minutes. Ce n'est pas la peine d'avoir une voie double partout, avec des gares ouvertes aux voyageurs partout, alors que vous comme moi, vous avez un portable et vous avez dessus vos billets de train, vous ne passez pas souvent au guichet. Eh bien, c'est grâce aux JO que tout ça est possible. Je crois qu'il faut bien se le mettre dans la tête. S'il n'y avait pas le déclencheur des JO, je crois qu'aujourd'hui, cette réunion n'aurait vraiment pas lieu.
Au final, la visite de Jean-Pierre Farandou était symbolique, car aucune réelle annonce, ni dans les chiffres, ni dans le calendrier. Mais l'ambition est là, que les Hautes-Alpes ne soient plus l'oublié des rails.
Merci Cyril. Et puis, dès le 19 mai prochain, le cabotage sera de retour et rendu possible sur le train de nuit Paris-Briançon. Les usagers entre Vennes et la cité Vauban pourront l'emprunter pour leur déplacement dans les Hautes-Alpes, ce qui était impossible depuis 2016.
Le col d'Alaos ouvrira bien cet été, comme l'avait promis la présidente du département des Alpes de Haute-Provence.
D'importants dégâts avaient été occasionnés sur cet axe lors des intempéries de 2023, obligeant l'interdiction d'accès l'an dernier par mesure de sécurité. Décision pénalisante pour les professionnels du tourisme alors que 700 véhicules y transitent habituellement, Aurore Valory.
Et ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir d'ici la mi-juin, début juillet. Le col d'Alaos se rouvrira jusqu'à septembre. Le chantier va attaquer d'ici quelques jours, alors que 14 points d'éboulement ont été recensés, dont 10 rien que pour la foue d'Alaos. 4 seront traités rapidement, les autres plus tard, puisqu'ils font l'objet d'un glissement de terrain plus massif et moins contrôlable d'une dizaine d'hectares. Des capteurs y seront installés pour récolter de la donnée. Eliane Bareil, présidente du conseil des départemental des Alpes de Haute-Provence.
On met en place des ancrages qui vont nous permettre en même temps d'avoir un contrôle en continu sur le glissement de terrain, avec des alarmes qui pourront mettre en sécurité les usagers si se déclenchait un problème de glissement. Tout est fait pour qu'on puisse rouvrir et mettre en sécurité les usagers. Aujourd'hui, ce qu'on discute plutôt, c'est voir si on peut ouvrir un peu plus tôt et fermer un peu plus tard pour permettre une vraie saison estivale pour le Val d'Alaos.
Une ouverture qui ne sera permise qu'aux véhicules légers pour gagner du temps sur le chantier.
On sait bien que dans ce col, c'est compliqué de se croiser, donc on ne va pas en rajouter, notamment les camping-cars de grand gabarit. Je préfère privilégier l'activité économique que l'activité loisir camping-car.
Les opérations col réservées aux vélos sont aussi annulées. Une ouverture qui va soulager les socio-professionnels durement impactés. Des premiers dossiers d'indemnisation ont été déposés auprès de la CCI. Selon leur bilan effectué le 31 mars dernier, ils sont à l'instruction.
Il fallait répondre à certains nombres de critères. Il faut qu'ils soient impactés plus de 30% de leur chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, nous allons voir quels sont les dossiers qui seront le plus impactés. Pour nous, le budget est prévu. Pour nous, il n'y a pas de volonté de ne pas indemniser, loin s'en faut. Il faut simplement du temps au temps. On ne peut pas donner de l'argent public à des entreprises sans avoir quand même étudié un minimum la situation financière de l'entreprise.
Quant au refuge d'Alaos, une aide avait déjà été mise en place, l'abandon de son loyer.
Merci Aurore. 1 500 000 à 2 millions d'euros seront investis cette année. Plus de 6 millions seront injectés pour ce chantier sur le col d'Alaos. Un budget conséquent selon Eliane Bareil qui se tourne vers les habitants. Tout ne peut pas se faire rapidement. On consacre un gros budget. Fin de citation. Autre travail travaux cette fois-ci à Risoul. La route départementale 186 qui relie le village à la station avait été fortement endommagée et même coupée dans les derniers mètres qui mènent à la station lors des intempéries de décembre 2023. À l'époque, dans l'urgence, le département haut-alpin avait rétabli la circulation à l'aide d'un pont militaire provisoire d'une trentaine de mètres. Les services sont désormais prêts pour intervenir lors de travaux de reconstruction permanents après des études menées l'an passé. 400 000 euros vont être investis par le département haut-alpin pour l'installation d'une paroi clouée, de remblais drainants et de blocs de béton. Le chantier débute le mois prochain avec des alternats de circulation. Une fermeture complète de la route est prévue entre le 2 et le 6 juin prochain pour déposer le pont. Un alternat de circulation entrera ensuite en vigueur jusqu'au mois de septembre.
Une 38 commune des Alpes de Haute-Provence labellisée Village d'Avenir.
Un programme lancé en 2023 par l'Agence nationale de cohésion des territoires qui permet de soutenir les territoires ruraux dans des projets structurants. Un accompagnement sur mesure par des chefs de projet est proposé. 38 communes supplémentaires l'intègrent désormais, portant le total à 72 collectivités soutenues dans le département bas-alpin. Retrouvez la liste complète sur alpeant.com.
Les paysages haut-alpins invités sur le tapis rouge de Cannes.
Le film Laurent dans le vent avec Béatrice Dalle a été sélectionné dans la programmation de l'Acide Cannes 2025 qui réunira du 14 au 23 mai 9 longs métrages. Ce dernier avait été tourné à l'automne dans l'Embrunet et la station des Ors. Il marque le retour de l'actrice Béatrice Dalle. Notez que L'englouti de Louise Aymon, tournée dans le Briançonnais en 2024, figure quant à lui dans la quinzaine des cinéastes, toujours à Cannes.
Alpes 1 Sport. Alpes 1 Sport.
Et comme chaque année au mois d'avril, hein, les Hautes-Alpes accueillent le plus grand rassemblement de hockey mineur d'Europe, c'est le Trophée Bauer des petits champions.
Un événement organisé par l'association de promotion du hockey sur glace qui se déroule sur trois patinoires, les U9 à Briançon, les U11 à Orcières et les U13 à Gap. Pendant trois jours sur chacun des lieux, 32 équipes vont disputer 7 matchs de poule qui sont au nombre de 4. Les matchs sont des 3 contre 3 sur un tiers de la patinoire. Les deux premières équipes de chacune des poules sont qualifiées pour les phases finales, les autres joue un match de classement, explique Benjamin Mass, membre de l'association de promotion du hockey et un des organisateurs de la 33e édition. Il espère bien que l'événement célébrera dans quelques années les 40 bougies.
On espère, si on n'a pas de petits imprévus comme on a eu pour le Covid, parce qu'on avait, on a eu 2 ans de coupure il y a quelques années à cause de la situation. Et derrière, bon, ça a été un peu compliqué de repartir, mais maintenant, tout semble ouvert, quoi. On essaye de garder la même configuration avec le même nombre d'équipes chaque année. Et c'est un pari en fait à chaque année parce qu'il faut quand même trouver 96 équipes, 32 sur chaque catégorie. Et du coup, on essaye de proposer la même chose sur 3 jours. C'est un an de travail puisque là, on travaille déjà sur l'édition 2026. La date est déjà programmée. Quand il y a une édition qui se termine, on travaille de suite sur l'autre. C'est plusieurs mois de boulot. Hein.
L'événement avec des équipes venues de toute l'Europe débute sur les trois patinoires à 12h30 demain et se termine lundi soir à 18h.
Les sélections pour les championnats de France de descente de canoë-kayak à l'Argentière-l'ABC.
Pendant 3 jours, à partir de demain, 300 athlètes, dont des membres de l'équipe de France, sont attendus au stade d'Eau Vive, un choix de la Fédération française qui démontre une fois de plus la qualité des parcours alpins ainsi que les compétences des organisateurs locaux et le soutien des collectivités territoriales, souligne le comité régional de canoë et kayak PACA et la commune de l'Argentière-l'ABC. L'occasion également de valoriser le stade d'Eau Vive et son label Centre de préparation aux Jeux Paris 2024.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com, Facebook et Twitter.